ici le groupe Amnesty Angers qui vous retrouve pour une demi-heure consacrée aux droits humains. Ça s'appelle Droit Devant et c'est sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonjour à vous deux.
Ravi de vous retrouver.
Bonjour tout le monde.
Bien, alors aujourd'hui dans cette émission, nous recevons Isabelle de la JAD, l'association judiciaire angevine de défense des droits de l'enfant.
Bonjour. Puis... Bonjour Isabelle.
Puis nous passerons en revue, bien sûr, l'actualité et dans la rubrique biographie, vous sera proposé un nouveau portrait. Mais tout d'abord, Philippe, dans ton éditorial, tu veux nous parler du Julian Assange. Merci Philippe.
Pendant 7 ans, de 2012 à 2019, le fondateur de Wikileaks, un Australien de 49 ans, a été confiné de son propre chef dans les minuscules locaux de l'ambassade équatorienne de Londres qui lui avait accordé l'asile. Mais tout bascule quand l'Équateur cesse de lui accorder sa protection et que des policiers britanniques l'appréhendent pour avoir enfreint les dispositions de sa liberté conditionnelle. Aujourd'hui, les États-Unis veulent l'extrader du Royaume-Uni. L'audience a débuté cette semaine à Londres. Les États-Unis ont formulé 18 chefs d'accusation, dont celui gravissime d'espionnage contre le lanceur d'alerte. Il risque jusqu'à 175 ans de prison. Affaibli, ne disposant que de peu de temps avec ses avocats, il se prépare à combattre.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est WikiLeaks ?
Eh bien, c'est un site internet participatif, Wiki, qui publie des documents top secrets provenant de fuites, leaks en anglais. Passionné par l'informatique, le jeune Assange devient un hacker doué qui se promène dans toutes sortes de réseaux numériques censés être bien protégés. Fin 2006, il crée donc un site qui permet à n'importe qui, de manière anonyme, de déposer des documents. En 2009, il apporte à Chelsea Manning ses compétences de hacker pour décrypter un mot de passe permettant d'accéder à un ordinateur de l'armée américaine. C'est ce qui a motivé sa première inculpation pour piratage.
Mais tout se précipite au printemps 2010.
WikiLeaks publie une vidéo secrète et explosive. On y voit un hélicoptère de l'armée américaine abattre froidement des Irakiens à Bagdad, dont plusieurs journalistes. Cet événement fait basculer l'organisation dans une autre dimension. Quelques mois plus tard, Assange et son organisation plongent au cœur de l'actualité. Le site publie des centaines de milliers de documents secrets issus de la même source concernant la guerre en Irak, en Afghanistan et la diplomatie américaine. Il s'agit alors de la plus importante fuite de documents secrets de l'histoire. Pour cela, il a travaillé avec plusieurs grands médias internationaux, dont Le Monde.
Oui, mais Assange reste malgré tout un personnage qui est très controversé.
En effet, deux Suédoises l'accusent de viol et d'agression sexuelle, mais il a toujours nié. Une enquête est ouverte. Par ailleurs, malgré l'enfermement volontaire de son fondateur, l'organisation, fin 2016, commence à publier au compte-gouttes les emails dérobés au Parti démocrate américain par des pirates téléguidés par le pouvoir russe. Le penchant anti-Clinton d'Assange fait alors peser sur WikiLeaks des accusations graves de collusion avec les services russes.
Et son état de santé, alors, il s'est nettement dégradé ces derniers mois, je crois.
En effet, le lanceur d'alerte est à l'isolement dans une prison, souvent décrite comme la version britannique de Guantanamo. En novembre, une soixantaine de médecins internationaux ont tenté d'alerter le monde sur son état de santé. Ils envisagent sérieusement qu'il puisse mourir en prison. En novembre, c'est le rapporteur spécial de l'ONU qui a jugé sa situation inhumaine.
Et au-delà de l'aspect humanitaire, ce lanceur d'alerte pose des questions cruciales une démocratie.
En effet, c'est le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'informer qui sont ici attaqués. L'effet de dissuasion sur les journalistes et tous ceux qui dénoncent les méfaits des autorités en publiant des informations d'intérêt public pourrait être dramatique. S'il était extradé, Assange pourrait être détenu aux États-Unis dans des conditions qui s'apparentent à de la torture et d'autres mauvais traitements. En outre, le risque d'un procès inique est très élevé. La campagne publique menée depuis des années contre lui par des représentants du gouvernement américain porte déjà gravement atteinte à sa présomption d'innocence. Julian Assange et WikiLeaks continuent néanmoins de recevoir de multiples marques de soutien. De nombreuses organisations, dont Amnesty International, dénoncent en effet ces accusations jugées contraires à la liberté de la presse et aux droits humains.
Merci Philippe. Allez, vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Isabelle de la JAD. Alors, je vais la laisser redire ce que ça veut dire, la signification. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci de me recevoir. Alors, la JAD, ça veut dire l'Association judiciaire angevine des droits de l'enfant.
Merci.
Pouvez-vous nous présenter un peu l'association, vos objectifs et vos actions ?
Alors, on a créé cette association en 2016, parce qu'on s'est rendu compte avec plusieurs autres avocats, puisqu'au départ, ça part du monde judiciaire et en tout cas des avocats, que d'abord, il n'y avait pas ce type d'association sur Angers, et que pour tous les mineurs qui étaient en difficulté, on va le dire de façon générale, c'est-à-dire soit délinquants, soit au contraire en danger, soit des fois les deux, parce que c'est parfois les deux, il y avait toujours beaucoup de professionnels autour de ces enfants-là, mais que ces professionnels de sources différentes, hein, monde médical, monde éducatif, monde judiciaire, et bien en réalité ne communiquaient pas entre eux. Et donc l'objectif de cette association, c'est de réunir tous ces professionnels, donc c'est quand même une association à destination de professionnels autour de l'enfance, et donc de réunir tous ces professionnels autour des questions que tout le monde se pose, et quel est le point de vue juridique sur une question, quel est le point de vue médical, quel est le point de vue éducatif, et d'échanger pour essayer de construire des choses un peu positives autour de ces enfants-là.
D'accord. Alors, je crois que le code de justice des mineurs a été modifié il y a peu.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu une réforme. On était avant et depuis maintenant des décennies, enfin depuis 45, hein, sous le régime de l'ordonnance de 45, qui avait été de multiples fois modifiée, puisque sans vouloir trop m'avancer, mais j'en suis quasi sûre, on parle de 44 modifications depuis 1945 ce texte. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu de tout dans cette ordonnance, mais ma foi, elle fonctionnait plutôt bien. Et il y a eu donc cette volonté de réformer la justice des mineurs, de la transformer véritablement, parce que là on est sur quelque chose de tout à fait nouveau, et ce que nous on a déploré en tant que professionnels en tout cas, et pas seulement les avocats, hein, c'est que ça s'est fait un petit peu à la va-vite, on peut le dire comme ça, et que ça s'est fait par voie d'ordonnance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion derrière véritablement sur certains points de ce texte. Alors, tout n'est pas mauvais dans cette modification, mais la façon dont ça a été mis en place est critiquable à mon sens, parce que c'est un... Enfin, la justice des mineurs, c'est quelque chose de fondamental, je crois. Oui. Et qu'aujourd'hui, les enfants de demain, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Mmh. Et que si on ne les protège pas correctement, ou si on ne fait pas ce qu'il faut, en tout cas, pour qu'ils bénéficient de tout, je crois qu'on se prévoit des choses pas très sympathiques dans les années à venir. Voilà. Et donc, ce projet a en fait une volonté d'accélérer les choses, hein, que la justice soit rendue plus rapidement. Donc, c'est essentiellement à destination, bien sûr, des mineurs délinquants. Hein, mais en même temps, tout ce qui existait auparavant, c'est-à-dire avant ce texte, il y avait tout l'arsenal, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait juste un manque de moyens. Mais le dire, ça paraît tellement évident. C'est-à-dire que ces manques de moyens étaient autour, bien sûr, de tout ce qui était éducatif. Hein. On manque d'éducateurs, on manque de structures d'accueil pour les enfants auteurs ou en danger. On manque de tout. Et les magistrats aussi manquent. Et donc, en fait, on a mis un espèce de cataplasme. On n'a pas soigné, on n'a pas pris le cœur du problème. Il y avait tout l'arsenal nécessaire pour rendre une très bonne justice des mineurs. Il y avait toutes les mesures dedans. Il y avait peut-être un toilettage à faire, un petit nettoyage, mais certainement pas ça. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue.
Voilà. Donc là, si on a bien compris, votre association permet un peu cette coordination avec différents partenaires, justement pour peut-être mieux répondre.
Alors, en tout cas, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir échanger justement des points de vue qui peuvent être très différents, parce que le monde judiciaire auquel j'appartiens n'est pas toujours d'accord avec le monde éducatif. Et en tout cas, c'est pouvoir se réunir autour de, par exemple, ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est l'objectif d'un colloque qu'on va tenir au mois d'octobre, puisque ce nouveau texte, il est censé entrer en application au 1er octobre 2020. Je dis bien censé parce que je crois que ça va être différé, parce que je pense que les juridictions sont tout simplement pas prêtes et n'en ont pas les moyens. Mais peut-être je m'avance. Et en tout cas, nous permettre d'y réfléchir, de voir les choses qu'on trouve positives, les choses qu'on trouve négatives, et de critiquer au sens strict du terme, d'éventuellement envisager, de notre point de vue à nous, des QPC, des choses comme ça, en sachant que le texte, il est en application. Enfin, il va être en application. On ne peut pas remettre... mais de peut-être faire bouger un peu la ligne et de se rendre compte qu'il y a des choses qu'il va falloir remodifier dans ce texte-là. Enfin, du moins, on espère être entendu s'il y avait des modifications qui étaient souhaitables.
D'accord. Alors, je crois que vous organisez des événements, effectivement, pour faire connaître votre action. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait récemment ?
Alors, depuis que l'association a été créée, on a d'abord, chaque année, on s'est efforcé de faire un colloque Hein. Mmh. La première année, c'était sur le mineur victime. La seconde année, sur le mineur auteur. Justement, en miroir, parce qu'on trouve que c'était intéressant. Mmh. Où, là encore, on a invité tous les professionnels. Mmh. Et après, on fait plusieurs... On est partenaire avec plusieurs autres associations. Et donc, on intervient auprès de ces associations et qui interviennent aussi auprès de nous. On fait véritablement des échanges avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec la maison des adolescents, avec l'association ACVS, qui est l'association contre les violences scolaires. Et qui d'ailleurs est notre, non seulement notre partenaire, mais le président de la CVS et le vice-président d'AJAT, parce que c'est aussi une volonté de synergie qu'on a souhaité, pour pouvoir effectivement mener des actions aussi au plus près, par exemple de l'éducation nationale, qui a beaucoup de choses à faire remonter, beaucoup de choses à dire aussi, mais qu'on a du mal à accrocher bizarrement. C'est compliqué de faire venir l'éducation nationale. C'est compliqué.
Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos coordonnées, les moyens qu'on aurait de vous contacter, si en tout cas ça s'adresse au grand public ou peut-être plus aux professionnels?
Ça s'adresse plutôt aux professionnels. Donc là, je fais un appel, comme je fais à chaque fois sur les radios où j'ai été invitée, je fais un appel à l'éducation nationale, haut et fort, hein, aux enseignants que ça pourrait intéresser. Tous les éducateurs du monde judiciaire, maintenant sur Angers en tout cas, plus ou moins nous connaissent. Après, ça peut s'étendre aux départements limitrophes, il n'y a pas de souci. Donc, il suffit de taper AJAT sur Internet et vous allez trouver les coordonnées. Il y a un site, il y a un moyen d'adhérer aussi par l'intermédiaire des l'OASO. Et donc, il y a tout ce qu'il faut, sachant que l'association, elle, est domiciliée 6 rue Saint-Blaise à Angers. Mais ça n'a pas véritablement de sens. Oui, c'est surtout sur Internet qu'on peut nous contacter, bien évidemment.
D'accord. Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
Isabelle. Merci à vous. On se retrouve après une pause musicale.
Coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh sur mon coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Thank you.
nous voilà de retour dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. Vous venez d'écouter Vianney qui nous chantait « Moi, aimais-toi ». Mais c'est l'heure d'écouter maintenant la fameuse chronique de Céline, notre veilleuse de la halte d'urgence d'Angers, située, je vous le rappelle, au chemin de Traverse.
Soirée fraîche du monde, nous sommes installés sous les lampadaires. Les Berrichats sont bien de retour, mais seulement le frère, qui n'a qu'une petite fille de 16 mois. Les enfants en ce malage sont sympas. Anita nous raconte que sa fille va accoucher demain. Césarienne programmée, l'enfant se présentant par le siège. Donc, dans 5 jours normalement, elle sera de nouveau dehors avec le bébé. Et elle n'a rien. Pas de poussette, pas de vêtements, rien. Elle demande de l'aide, au moins un couffin pour mettre le bébé. C'est son 2e enfant. Bête Naret demande des chaussures en pointure 23 pour sa fille de 2 ans. La petite a des chaussures complètement fichues. La semelle s'en va. Monsieur Parvin est venu chercher Anard pour l'héberger, mais Anard n'est pas présent ce soir. Il laisse des chaussures taille 37 et un manteau et s'en va. Angèle, du Burundi, raconte qu'elle est en procédure normale. Elle a fui la guerre. Elle espère pouvoir rester en France. Un homme nous raconte qu'il y a eu une bagarre au 115 et que le gardien s'est interposé, puis cela a dégénéré, que le gardien est obligé d'y aller avec ses bras et a même peut-être cassé des dents. Anna Gégia est désespérée et épuisée. Sa demande d'hébergement Tempo pour sa famille a été refusée au motif que Georgie va bien. Sauf que Georgie ne va pas bien. Anna est très énervée et en veut à son assistante sociale. Malgré cela, elle sera facilitante pour traduire et ainsi permettre de prendre rendez-vous avec la famille B qui partira en répit demain pour une semaine. Un couple kurde syrien et leur petite fille a été trouvée ce matin par des habitants de Saint-Macaire, devant la mairie. Ils étaient arrivés à Nantes et étaient perdus. Ils se sont retrouvés à Angers ce soir. Ils seront logés par un joker. Voilà Valérie, une énième chronique du chemin de traverse. Et rien ne change.
Voilà, c'était le moment de Céline. Allez, on part tout de suite pour la rubrique actualité et on part en Turquie, je crois, Philippe.
Un tribunal d'Istanbul a acquitté mi-février la journaliste et romancière turque Asli Erdogan, jugée pour appartenance à une organisation terroriste et atteinte à l'intégrité de l'État dans le cadre d'un procès à rallonge. Voici 4 ans qu'elle était harcelée judiciairement pour avoir écrit des articles pour un journal pro-kurde. Mais la répression se poursuit toujours. Quelques heures après son acquittement, l'homme d'affaires et philanthrope turc Osman Kavala a été arrêté de nouveau à la demande du parquet d'Istanbul, prêt à le mettre en examen, cette fois pour sa participation présumée au putsch manqué du juillet 2016. Amnesty a dénoncé cette nouvelle arrestation jugée cynique et cruelle.
Autre affaire turque, Sophie, est-ce qu'il y a du nouveau dans l'affaire dite des 11 d'Istanbul ?
Après une journée d'audience le 19 février, le verdict est renvoyé au 3 avril. Ces 11 personnes, parmi lesquelles l'ancien président, l'ancienne directrice et plusieurs membres d'Amnesty Turquie, ainsi que des militants en faveur des droits des femmes et de l'égalité, font l'objet d'accusations absurdes de terrorisme. Pourtant, aucun élément de preuve crédible n'a été présenté au cours des 10 audiences de leur procès. Certains prévenus pourraient écoper d'une peine allant jusqu'à 15 ans de prison. Donc Amnesty reste mobilisé et le public aussi.
Philippe, la Chine continue d'intimider les Ouïghours même lorsqu'ils ont quitté le pays.
Amnesty révèle que la Chine cible de manière systématique les membres de la diaspora ouïghour à travers le monde. Ces pressions sont exercées par les ambassades chinoises à l'étranger via des applications de messagerie et lors d'appels téléphoniques. Des récits effrayants montrent que la répression visant les minorités s'étend bien au-delà de ses frontières. Le gouvernement chinois trouve ainsi le moyen de les repérer et tente de les rapatrier, y compris en faisant pression sur d'autres gouvernements pour qu'ils les expulsent. Rappelons que 1 million de Ouïghours, au moins, sont détenus et endoctrinés de force par les autorités chinoises.
Et en Chine encore, le militant et juriste Zhu Qiyong vient d'être arrêté pour avoir critiqué la gestion de l'épidémie de coronavirus.
Il est dans le collimateur des autorités depuis qu'il a assisté à une réunion de militants des droits humains à Xiamen en décembre et critiqué la gestion de la crise